Pendant près de 20 ans, un surdoué en mathématiques entretient le fantasme de détruire la société industrielle. Il pose des bombes ou en envoie par la poste à d'innocentes victimes. Au cours de cette vague destructrice, 3 personnes perdront la vie et des dizaines d'autres seront blessées. C'est le dossier le plus complexe du FBI. Des agents ont enquêté pendant 17 ans à la recherche du terroriste invisible qu'on avait surnommé Yuna Bomber. Le 25 mai 1978, à Evanston, dans l'Illinois, un professeur en ingénierie du nom de Buckley Christ, de la Northwestern University, arriva dans la salle de courrier avec un colis dans les mains. Son nom figurait sur le colis à titre d'expéditeur. Pourtant, il ne connaissait pas l'homme à qui il l'avait présumément envoyé. Le garde de sécurité Terry Marker lança à la blague qu'il s'agissait peut-être d'une bombe. Il ne s'était pas tout à fait trompé, même si la bombe s'avéra inoffensive. C'était le début d'une vague de destruction qui allait mystifier les services du FBI pendant près de 20 ans et terroriser une nation tout entière. Le 15 novembre 1979, le vol 444 de la American Airlines décolla de l'aéroport de Chicago en partance pour Washington. Le Boeing 727 prenait de l'altitude lorsque la cabine s'emplit de fumée. Ce fut l'état de panique. L'avion dut atterrir à l'aéroport Dulles en Virginie. Plus d'une dizaine de personnes furent incommodées par la fumée et durent recevoir les soins requis. L'un des fils de la bombe avait mal été fixé. Heureusement, sinon plus d'une centaine de personnes auraient perdu la vie. Aux États-Unis, poser une bombe dans un avion est un délit de juridiction fédérale. On fit appel à l'agent Chris Roney du FBI pour examiner la bombe.
C'était essentiellement une boîte de bois qui visiblement était assemblée à la main. Elle contenait un interrupteur barométrique, d'autres composants de mise sous tension, des piles, des fils électriques et un contenant pour la charge explosive. La variation de la pression atmosphérique dans la soute à bagages activait l'interrupteur barométrique. C'était cet instrument qui devait provoquer l'explosion de la bombe.
L'utilisation de cet équipement sophistiqué indiquait à coup sûr que le coupable était quelqu'un de très compétent en la matière. Roney commença son enquête auprès de la police de Chicago. Il espérait trouver quelque chose qu'il pourrait comparer au dispositif trouvé dans l'avion. Suite à des recherches approfondies, on identifia 2 incidents mineurs qui s'étaient produits à la Northwestern University. Apparemment, il n'y avait aucun lien entre eux. Lors du premier incident, Terry Marker avait été blessé. Le 9 mai 1979, une autre bombe avait explosé à l'université et avait grièvement blessé l'étudiant John Harris. La conception de la deuxième bombe était pratiquement identique à la première. Mais comme les incidents avaient relativement peu d'importance, les autorités n'avaient pas tenté d'établir des liens. On avait attribué ces bombes artisanales à des farceurs de mauvais goût et on s'était débarrassé des restes des dispositifs. À partir des photos seulement, Chris Roney établit que les 3 bombes avaient toutes été fabriquées par la même personne.
Il y avait une certaine technique de fabrication. La façon dont le bois avait été coupé, assemblé, les marques sur le bois et la façon dont le ruban adhésif avait été collé. À partir des photos, j'ai tout de suite su que c'était la même personne dans les 3 cas.
Les bombes tuyaux placées à l'intérieur des boîtes de bois étaient constituées de composantes ordinaires, des vis, des clous, de la poudre explosive et du ruban adhésif. Ces composantes étaient de fabrication artisanale et avaient été limées de façon à ce qu'il soit impossible d'en retracer la provenance.
Certaines composantes semblaient avoir été faites avec plaisir par l'auteur, tellement elles avaient été façonnées avec soin et minutie. Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point cet individu avait mis du temps sur cette bombe et combien il semblait avoir apprécié l'affaire.
Il n'y avait pas de doute possible. Le FBI était aux prises avec un récidiviste, un criminel passionné par ce qu'il faisait. Dans les années 50, dans une banlieue de l'Illinois, un jeune garçon timide et très intelligent du nom de Ted Kaczynski sauta une année à l'école élémentaire. Il était introverti et préférait étudier seul dans sa chambre, particulièrement la chimie. C'était un jeune enfant prodige, dont l'intelligence était supérieure à la moyenne. Son quotient intellectuel avait été évalué à 170. Il avait fait son admission à Harvard à 16 ans et avait obtenu son diplôme 3 ans plus tard, en 1962. En seulement 5 ans, il avait obtenu son doctorat de l'Université du Michigan. Il était l'assistant du professeur de mathématiques de l'Université de Berkeley en Californie. Kaczynski n'était pas un professeur populaire ni sociable. Pratiquement personne n'eut l'occasion de le connaître intimement. En 1969, il donna sa démission abruptement. La dimension sociale de sa profession semblait trop demander de lui. Il ne se sentait pas à l'aise dans le rôle de professeur. En 1971, Kaczynski décida d'abandonner complètement la vie en société. Il fit l'acquisition d'un acre et demi de terre en région, près de Lincoln, au Montana, à 1800 mètres au-dessus de cette société dont il ne voulait plus. Il construisit une cabane de moins de 3 mètres carrés sans électricité ni eau. Il y vivait seul, lisant et écrivant. L'un de ses écrits était un essai virulent de 23 pages dans lequel il s'insurgeait contre l'obsession de l'homme moderne face au progrès technologique. La recherche scientifique, écrivait-il, va inévitablement nous conduire à la mort de la liberté individuelle. Il en envoya une copie à son frère David. Ce dernier le lut et le rangea dans un coffre où il allait demeurer pendant les 25 prochaines années. En juin 1978, Ted Kaczynski sortit de sa cabane pour aller travailler pour son frère à son usine de coupe de mousse de polyuréthane. Son comportement bizarre finit par dépasser les bornes. Ted insulta une de ses collègues de travail qui avait refusé ses avances sexuelles. Son frère dut le renvoyer. Ted était rongé par le ressentiment. Il retourna vivre dans sa cabane au Montana, jurant de ne jamais revoir sa famille. Ce surdoué introverti était frustré de n'avoir pu s'intégrer socialement. Il devint encore plus solitaire, convaincu que l'homme moderne était incapable de le comprendre. Il commença dès lors à percevoir la société comme un obstacle qu'il lui fallait vaincre. Avec le temps, Ted s'habitua à sa vie de reclus. Il faisait tout pour être autonome et cultivait même ses propres fruits et légumes. Il avait peu de contact avec le monde extérieur, préférant la compagnie de la nature sauvage du Montana. Ted n'allait à Lincoln que très rarement. Et lorsqu'il y allait, c'était pour aller consulter les livres de référence de la petite bibliothèque municipale. Le 3 mai 1980, il se rendit à Lincoln sur le vélo qu'il avait fabriqué lui-même. Cette fois-ci, il n'irait pas à la bibliothèque. Il prit l'autobus d'Helena et loua une chambre au Helena Park Hotel. Le lendemain, il prit la direction de la côte ouest. Il avait une affaire pressante à régler. Percy Wood, le président de la United Airlines, reçut un colis à sa résidence en banlieue de Chicago le 10 juin 1980. Quelques jours plus tôt, il avait reçu la lettre d'un inconnu qui lui promettait de lui envoyer un livre dont la portée sociale était très importante. Wood ouvrit le colis au-dessus du comptoir de sa cuisine. Il en retira un livre, Ice Brothers, de Sloane Wilson. Wood était intrigué. Pourquoi ce livre était-il significatif? Il l'ouvrit. Il passa à un doigt de la mort. Le terroriste s'était considérablement amélioré. C'était sa quatrième bombe et sa plus puissante jusqu'à présent. Les experts en explosifs du FBI et de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, se rendirent sur les lieux. Ils reconnurent immédiatement la signature du terroriste. À chaque fois, il s'agissait de bombes tuyaux et leur fabrication toujours la même. Sur cette bombe, cependant, le terroriste avait laissé une carte de visite. Gravée sur un morceau dans les débris se trouvaient les lettres F et C.
Les lettres avaient été mises là à dessein. Elles avaient même été gravées de façon à résister à la détonation. Il n'y avait pas d'autre explication ni aucune autre fonction à leur présence. C'était une signature.
Il n'y avait plus qu'à tenter de comprendre leur signification. Les experts du FBI avaient déjà trouvé un surnom à l'auteur de ces crimes, Unabomber. Un pour université et A pour avion, ses deux cibles de prédilection. Lui trouver un surnom avait été facile. Le retrouver, lui, serait bien plus complexe. En 1981, les lettres FC étaient l'indice le plus important dont disposait le FBI à propos de Unabomber. Les agents vérifièrent les antécédents de milliers de personnes avec ces initiales. Pendant ce temps, le terroriste continuait sur sa lancée. En octobre, on retrouva un colis dans un immeuble de l'université de l'Utah. C'était une bombe tuyau. Heureusement, elle n'éclata pas. Les experts pourraient examiner cette bombe intacte. Peut-être leur serait-il possible de retracer une de ses composantes. Mais cela prendrait du temps. Unabomber était toujours actif. Au printemps de 1982, un colis destiné au professeur Leroy Wood Burnson explosa dans les mains d'un assistant de l'université de Vanderbilt. La bombe avait été fabriquée avec les mêmes matériaux. À nouveau, on retrouva une pièce avec les lettres FC dans les morceaux qui en restaient. Les experts passèrent plusieurs heures à analyser les moindres détails de la bombe. On trouva alors un indice bien étrange. Les deux dernières personnes à avoir été la cible du terroriste portaient le nom de Wood, soit le mot « bois » en français.
Le bois jouait un rôle important dans ces bombes. On le retrouvait chaque fois. S'il n'y avait pas de bois dans la fabrication, le suspect en ajoutait quelques bâtonnets, tout simplement, sans aucun autre motif. Il y avait des références au mot « bois » dans les adresses et les noms des personnes à qui il s'attaquait.
Mais à mesure que les recherches du FBI s'intensifiaient, la puissance des bombes de Unabomber augmentait elle aussi. Le 2 juillet 1982, le professeur Diogenes Angelakos, de l'université de Berkeley en Californie, un mari dévoué et un professeur apprécié, remarqua un objet étrange sur le sol dans la salle de repos du département d'informatique. L'explosion le blessa gravement. Ses doigts furent déchiquetés. Il était au sol dans un état semi-comateux lorsqu'il trouva un mot dactylographié. « Wu, cela fonctionne, je te l'avais dit, RV. » » Les agents du FBI vérifièrent les antécédents de tous les Américains qui s'appelaient Wu et de tous ceux dont les initiales étaient RV. La tâche était monumentale. Mais ils ne trouvaient rien. C'était un stratagème. En mai 1985, dans le même édifice, l'ancien étudiant John Hauser, un capitaine dans la Air Force, remarqua sur le sol un cartable posé sur un autre objet. Hauser venait tout juste de poser sa candidature pour recevoir un entraînement d'astronaute. Il gisait au sol, ignorant qu'il avait déjà été accepté. Malheureusement, il ne pourrait plus jamais piloter. On retrouva sa bague de l'Académie de la Air Force incrustée dans le mur de l'autre côté de la pièce. Ironiquement, le professeur Angelakos était tout près lors de l'explosion. Il accourut pour porter secours à Hauser. Les enquêtes menées par les agents du FBI, de l'ATF et du service des postes américains avaient fini par devenir frustrantes, tellement elles n'avançaient pas. Le 8 mai 1985, la société Boeing située à Auburn, dans l'état de Washington, reçut un colis. Il était lourd et on y avait apposé trop de timbres. Un employé du service du courrier se méfia et il appela le service de sécurité. Une radiographie du colis permit de déterminer qu'il contenait une bombe tuyau. Les lettres FC avaient été gravées à chacun des bouts. Si l'employé avait ouvert ce colis, il est fort probable qu'il serait mort ainsi que ses collègues à proximité. Le 15 novembre 1985, James McConnell, un professeur de psychologie à l'Université du Michigan, reçut une lettre et un colis d'un certain Ralph C. Kloppenberg. L'expéditeur y déclarait qu'il faisait sa thèse de doctorat. Il demandait au professeur de lire un livre. Pendant qu'il lisait la lettre, son assistant ouvrit le colis. L'explosion blessa gravement l'assistant et fit exploser les tympans de McConnell. De leur côté, les experts continuaient à disséquer les bombes. Elles évoluaient à mesure que Unabomber améliorait son art. Leurs analyses permirent de constater qu'elles étaient de plus en plus sophistiquées et par conséquent plus puissantes. Hugh Scorton était propriétaire du magasin d'informatique Rentech à Sacramento en Californie. Le 11 décembre 1985, vers midi, il sortait par la porte arrière lorsqu'il remarqua quelque chose. Cela ressemblait à un bloc de bois, quatre clous en sortaient, la pointe vers le haut. L'explosion fut dévastatrice. La poitrine de Scruton fut complètement ouverte, laissant son cœur à découvert. Unabomber était devenu un meurtrier. La bombe qui avait tué Hugh Scruton était la plus puissante. C'était un tuyau à l'intérieur d'un autre tuyau. Elle était de fabrication similaire aux autres. On y avait également gravé les lettres FC de chaque côté. Ted Kaczynski vivait toujours dans sa cabane isolée. Lorsqu'il ne fabriquait pas des bombes, il écrivait. Il mettait au point une philosophie pour justifier ses crimes. Pour Kaczynski, la société technologique était une abomination. Elle causait la destruction de la Terre et transformait les êtres humains en des robots sans âme. Selon lui, quiconque entrait dans cet état de sujétion à la technologie était un scélérat. Le 20 février 1987, en regardant par la fenêtre de son bureau, la secrétaire du magasin d'électronique CAM de Salt Lake City aperçut un homme dans le stationnement en train de déposer un objet au sol. Une heure plus tard, le propriétaire du magasin, Gary Wright, arrivait dans le stationnement. Il remarqua l'objet. C'était un bloc de bois d'où sortaient quatre clous, les pointes vers le haut. Wright fut gravement blessé, mais miraculeusement, il eut la vie sauve. Pendant que la police était à la recherche d'un suspect dans les gares d'autobus et les commerces, on fit dresser son portrait grâce à la description de la secrétaire. À en juger par ses déclarations, l'homme était déguisé. Le dessin ne permit pas à la police de retrouver Una Bomber, mais elle eut tout de même un résultat positif. Una Bomber savait qu'il avait été vu et il cessa de faire des vagues pendant un certain temps. En 1993, après une pause de 6 ans, des événements très médiatisés le poussèrent à reprendre son travail là où il l'avait laissé. L'affrontement à Waco, au Texas, entre les agents de l'ATF et la secte des Davidiens, ainsi que le premier attentat du World Trade Center, avait créé un climat politique très violent. Una Bomber s'apprêtait à lancer une nouvelle campagne de terreur. Charles Epstein est un généticien renommé de l'Université de San Francisco. Le 22 juin 1993, il s'assit à la table de sa cuisine pour ouvrir son courrier, notamment une enveloppe coussinée qu'il venait de recevoir. La détonation blessa gravement Epstein. Après 2 heures et demie sur la table d'opération, son état finit par se stabiliser. Deux jours plus tard, soit le 24 juin, David Gelernter, un éminent expert en informatique de l'université de Yale, arriva tôt à son bureau pour ouvrir son courrier de la veille. Il eut des blessures au bras droit, à l'œil et à l'abdomen. Gelernter parvint à sortir de son bureau et à chercher de l'aide. Quelques heures après l'explosion de la bombe destinée à Gelernter, le New York Times reçut une lettre. Elle provenait d'un soi-disant groupe d'anarchistes appelé FC, qui revendiquait les dernières bombes. Le FC promettait de leur envoyer bientôt de nouvelles informations. Il donnait également aux responsables du Times un numéro d'identification pour qu'ils puissent s'assurer de l'authenticité des prochaines communications. Ce numéro était le 553-25-43-94. Le FBI découvrit qu'il s'agissait du numéro d'assurance sociale d'un ex-prisonnier en liberté conditionnelle de la Californie. Fait incroyable, il avait les mots « pure wood », bois pur, tatoués sur son bras. Une enquête permit rapidement de prouver qu'il n'était pas Una Bomber. On découvrit alors un autre indice important. En analysant le papier de la lettre adressée au New York Times, on pouvait distinguer la trace à peine visible d'une note manuscrite « Appelé Nathan Eyre, mercredi à 19h ». C'était la première piste importante donnée par Una Bomber. Le FBI interrogea plus de 10 000 personnes prénommées Nathan et dont le nom de famille commençait par la lettre R. Leur recherche ne donna malheureusement rien. Cette dernière vague d'activité obligeait le FBI à mettre les bouchées doubles. Une escouade spéciale formée d'agents du FBI, de l'ATF et d'inspecteurs du service des postes fut formée. Jim Freeman était alors le chef de bureau du FBI de San Francisco. C'est également lui qui dirigeait l'escouade spéciale.
Nous avions des indices dans 3 différents bureaux du FBI et plusieurs laboratoires d'État. Notre tâche principale était de réunir toutes ces informations, de déterminer ce qui avait déjà été fait au niveau de l'enquête. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'enquêter à nouveau sur tous les crimes perpétrés par Una Bomber.
Pendant que l'escouade spéciale travaillait d'arrache-pied, Kaczynski poursuivait sa croisade anti-modernisme. Le 10 décembre 1994, Thomas Moser, cadre d'une agence de publicité, ouvrait son courrier à sa résidence de Caldwell, au New Jersey. Sa femme et leurs 2 filles étaient à l'étage. Il examina un petit colis sur lequel on avait apposé trop de timbres. Il provenait d'un certain H.C. Wickle, du département des sciences économiques de l'Université de San Francisco. Cette explosion fut la plus dévastatrice. Thomas Moser fut décapité instantanément. Grâce à tous les éléments de l'enquête entourant Una Bomber, l'agent Moonell avait fabriqué des répliques de ces bombes à partir des débris recueillis sur les diverses scènes de crime. Tout comme les 15 premières bombes, cette dernière était incontestablement le résultat du travail de Una Bomber. Quelques mois plus tard, Ted Kaczynski se prépara à demeurer un certain temps sur la côte ouest. Ce voyage serait le plus occupé jusqu'à ce jour. Le 19 avril 1995, Kaczynski était dans la baie de San Francisco lorsque la bombe de près de 1000 kg d'essence de Timothy McVie détruisit l'immeuble Alfred P. Murrah à Oklahoma City, tuant 168 personnes. Cet événement n'eut aucun effet sur les plans de Ted. Le lendemain, soit le 20 avril, la nation n'était pas encore remise de la dévastation d'Oklahoma City que Kaczynski posta 4 lettres et un colis. Quelques jours plus tard, le courrier arriva sur la côte Est. La première lettre était destinée au New York Times. L'agent spécial Terry Turchi du FBI était alors le commandant en second de l'escouade spéciale.
Dans la lettre adressée au New York Times, il revendiquait la responsabilité des attaques de Thomas Mercer, Charles Epstein et David Gelernter. Il mentionnait aussi certains de ses objectifs. Il déclarait avoir l'intention d'envoyer un manuscrit ou un essai au journal et il désirait qu'il le publie. S'ils acceptaient, il promettait de ne plus commettre d'actes de terrorisme.
La seconde lettre était adressée à la victime David Gelernter de Yale, qui n'était pas encore remis complètement de ses blessures. La lettre était sarcastique. Professeur Gelernter, les individus qui ont des diplômes ne sont pas aussi intelligents qu'ils le croient, écrivait-il. Si vous aviez eu la moindre cervelle, vous auriez compris que beaucoup de gens détestent amèrement la façon dont les technos ringards de votre trempe tentent de changer le monde. Le 25 avril 1995, l'Association de foresterie de Californie reçut un colis. Il était adressé à son ancien président, William Dennison. Gilbert Murray, le nouveau président en poste, décida de l'ouvrir. Le colis piégé explosa avec une violence incroyable, détruisant tout ce qui se trouvait dans le bureau. Gilbert Murray fut littéralement déchiqueté. À quatre pas d'une maison, le gouverneur de la Californie entendit la détonation de son bureau. La vague de terreur de Una Bomber s'étendait à la grandeur du pays. Des alertes à la bombe étaient rapportées partout aux États-Unis. La liste de suspects du FBI comptait 50 000 noms. 16 ans et 16 bombes plus tard, Una Bomber avait fait 3 morts et blessé plus d'une vingtaine de personnes. 2 mois après la mort brutale de Murray, le San Francisco Chronicle reçut une lettre. On pouvait y lire que le groupe terroriste FC, appelé Unabomb par le FBI, comptait faire exploser un avion en partance de l'aéroport de Los Angeles au cours des 6 prochains jours.
Nous avons pris cette menace au sérieux parce que Unabomber avait effectivement déjà posé une bombe sur un avion. Elle n'était pas assez importante pour que l'avion explose en plein ciel, mais nous savions qu'il avait fait des progrès et qu'il en était sans doute maintenant capable.
Les agents du FBI prirent des mesures de sécurité extraordinaires. Les gardiens ne laissaient passer personne qui n'avait pas déjà son billet d'avion. Tous les sacs furent fouillés. Des chiens renifleurs vérifiaient absolument tout. Le service postal interrompit le transport de courrier par avion à bord des vols commerciaux.
On interrogeait les passagers qui avaient des sacs de voyage. On leur demandait s'ils l'avaient eu sur eux en tout temps, s'ils avaient eux-mêmes fait leur bagage. C'est ce genre de questions que nous avons commencé à poser ce jour-là à l'aéroport de Los Angeles.
Le même jour que celui où le San Francisco Chronicle reçut la menace à propos de l'aéroport, au Washington Post, on recevait de FC un manifeste de 56 pages dactylographié. Le New York Times reçut quant à lui une copie carbone du manifeste le lendemain et le magazine érotique Penthouse 2 jours plus tard. La lettre destinée aux responsables du Post et du Times mentionnait les conditions et les termes de la publication du manifeste. L'auteur acceptait de cesser d'envoyer des bombes si on le publiait. Pour l'agent spécial Terry Turchi et l'escouade spéciale, la réception de ce manifeste était une chance inespérée.
Bien sûr, quand nous avons reçu le manuscrit du Unabomber, c'était une information très importante. Nous savions que c'était ce que nous attendions, et que cela nous permettrait peut-être d'identifier Unabomber.
Le manuscrit était intitulé « La société industrielle et ses conséquences ». C'était un manifeste contre la technologie, la génétique, le gauchisme, le conservatisme et la société moderne en général. Les experts du FBI avaient recueilli beaucoup d'indices après toutes ces années d'enquête. Ils n'espéraient plus qu'une piste, celle qui permettrait de résoudre cette affaire. Freeman était de ceux qui étaient convaincus qu'il fallait publier le manifeste.
Nous étions en faveur de sa publication après avoir lu le document, parce qu'il était évident que cet individu avait développé cette philosophie au fil de plusieurs années. Nous espérions qu'à la lecture du texte, quelqu'un se dirait « Je me souviens de ce garçon qui était avec moi en classe à telle ou telle université ».
Après maintes discussions entre le directeur du FBI, le procureur Janet Reno, les responsables du Washington Post et du New York Times, on en vint à la décision de le publier. Le manifeste parut dans un cahier spécial du Post le 19 septembre 1995. Au début de 1996, David, le frère de Ted Kaczynski, avait eu le temps de réfléchir. Il avait appris qu'il y avait une relation entre Chicago, leur ville d'enfance, en plus de Berkeley et Salt Lake City, et Unabomber. Il était intrigué par cette série de hasards. Il obtint une copie du manifeste et commença à le lire. Il espérait ainsi pouvoir s'assurer que son frère n'était pas l'auteur de ses crimes. Mais à la lecture du document, il fut terrifié. Il reconnaissait le langage et le contenu du manifeste. C'était identique à certains écrits de son frère Ted. David fouilla dans les documents et les lettres de son frère et les compara au manifeste. Tout comme Ted, l'auteur employait l'expression « cool-headed logician », logicien à la tête froide. David était inquiet mais pas encore convaincu. Il écrivit une lettre à son frère pour lui dire qu'il souhaitait lui rendre visite au Montana, mais il ne fit pas état de ses soupçons. Ted refusa de le rencontrer. David décida alors d'engager un détective privé afin que ce dernier examine la situation. Les nouvelles que ce dernier lui rapporta n'étaient pas encourageantes. Le détective avait soumis le manifeste ainsi que d'autres échantillons des écrits de Ted à des experts qui ignoraient tout de cette affaire. Selon les experts, il y avait de fortes chances que les auteurs du manifeste et des autres échantillons soient une seule et même personne. David poursuivit sa recherche de documents provenant de Ted. Dans un vieux coffre, il retrouva l'essai que Ted avait écrit en 1971. David ne pouvait plus se cacher la vérité. Il était possible que le Unabomber et son frère fussent une seule et même personne. David Kaczynski était en état de choc. L'essai de 1971 qu'il avait retrouvé ressemblait de façon troublante au manifeste de Unabomber. Déchiré entre la perspective de dénoncer son propre frère et celle de laisser d'autres personnes se faire tuer, David prit finalement une décision. Par le biais de son avocat, il entra en contact avec le FBI pour leur parler de ses soupçons. En février 1996, David Kaczynski parla de son frère aux membres de l'escouade spéciale. Il donna un compte-rendu précis de la vie de Ted, où il avait grandi, l'école qu'il avait fréquentée et où il vivait maintenant. Il leur donna ensuite à lire l'essai de 1971.
Nous avons alors pu faire une comparaison entre le document qui était beaucoup plus ancien et la copie du manifeste. Nous avons tout de suite su qu'il ne s'agissait pas de simples coïncidences.
Les les experts du FBI analysèrent l'essai et découvrirent plus de 160 ressemblances entre les deux documents, notamment des expressions et des fautes d'orthographe et ainsi de suite. Après 17 ans, les agents du FBI disposaient enfin d'un premier suspect important en la personne de Ted Kaczynski. Les agents du FBI surveillaient étroitement la cabane de Ted Kaczynski en attendant l'obtention d'un mandat de perquisition. Ils espéraient que Una Bomber ne ferait pas d'autres victimes dans l'intermédiaire. Au début d'avril, ils avaient assez d'indices pour obtenir un mandat. Ils avaient entre autres découvert que Ted avait fait de nombreux voyages. Les registres d'hôtels montraient qu'il était toujours en voyage peu avant l'explosion d'une bombe. L'agent Terry Turchi soumit un affidavit de 65 pages relatant les détails de l'affaire contre Ted Kaczynski et demandant la permission de fouiller sa cabane.
Nous travaillons depuis 5 heures du matin à mettre les diverses équipes d'agents en position dans les bois de Lincoln, au Montana, ainsi qu'à un poste de commandement que nous avions établi dans la ville même. Chacun avait un rôle déterminé à jouer. Nous disposions également d'une équipe d'experts qui se trouvait à un autre poste de commandement. Nous étions tous prêts lorsque le mandat nous a été accordé.
Des agents du FBI en civil et un garde forestier se rendirent à la cabane de Kaczynski. Ils s'approchaient en parlant à haute voix. Ils ne voulaient pas que Kaczynski croie qu'il était espionné. Les agents lui demandèrent son aide pour identifier les limites de sa propriété sur une carte géographique. Pendant qu'il rentrait pour prendre une veste, les agents se précipitèrent sur lui. Kaczynski était maintenant en détention provisoire. On l'emmena au poste de commandement temporaire pour l'interroger. Jim Freeman allait enfin rencontrer l'homme qui avait échappé au FBI pendant presque 20 ans.
Il avait l'air débraillé. On aurait dit qu'il était couvert de suie. Les agents qui lui ont pris les bras pour le maîtriser avaient de la suie sur les mains.
Kaczynski nia toute accusation et refusa de dire s'il avait des bombes. Au cours de l'interrogatoire, on commença la fouille de sa cabane. On traita les lieux comme s'il s'agissait d'une véritable bombe. On pouvait présumer qu'il y avait des explosifs. Kaczynski avait même peut-être piégé sa cabane. Des équipes spécialisées dans les explosifs y pénétrèrent. Ted Kaczynski n'avait pas encore été inculpé. Les experts qui fouillèrent sa cabane trouvèrent assez de preuves pour l'inculper de possession de matériaux reliés à la fabrication de bombes. Il y avait des tuyaux, des produits chimiques, des fils électriques, des piles et des boîtes de bois. Ces découvertes permettraient aux agents de prolonger la détention de Kaczynski pendant que des fouilles plus exhaustives seraient effectuées. L'agent spécial et expert en explosifs Donald Sachleben devait trouver le plus grand nombre d'indices possibles pour obtenir un mandat d'arrestation. Il se rendit immédiatement à Helena pour présenter sa pétition au juge. Sachleben travaillait sur l'affaire Una Bomber depuis plusieurs années.
Je rentrais à Helena ce soir-là lorsque Pat Webb et moi-même, qui travaillons sur cette enquête depuis si longtemps, nous nous sommes regardés en nous disant que c'était peut-être le début de la fin. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment compris que nous avions enfin mis la main au collet du Una Bomber.
Ted Kaczynski fut gardé en détention pour la nuit jusqu'à ce qu'on puisse procéder formellement à son arrestation le lendemain matin. La télévision nationale diffusait des images de lui, marchant dans la rue, accompagné des policiers. Il était l'incarnation même de l'ermite excentrique. Le lendemain, il comparut devant un juge d'Helena et fut accusé de posséder du matériel pour fabriquer des bombes. La fouille de la cabane se poursuivait. C'était une véritable mine d'or, mais il fallait être très prudent. Les indices recueillis à pas de tortue étaient cependant très incriminants. Il y avait toute une série de cartables contenant des pages et des pages de modèles de bombes qui correspondaient à celles que Una Bomber avait fabriquées. Il y avait également de la poudre explosive, du type de celle de Yuna Bomber, des lingots d'aluminium et des copeaux d'aluminium, autant de composantes importantes dans la fabrication de bombes. On trouva également le chandail à capuchon et les lunettes fumées décrites par un des témoins. L'agent Thomas Manuel, qui a analysé les bombes de Yuna Bomber, était également sur les lieux.
Parmi les autres indices dans la cabane, il y avait des composantes électriques et des fils semblables à ceux qu'on trouvait dans la majorité des dispositifs de Yuna Bomber. Nous avons trouvé un interrupteur artisanal identique à trois interrupteurs déjà placés dans des bombes.
Après deux jours de fouilles, on interrompit les recherches. On avait trouvé un colis. Il était enveloppé comme les autres bombes. Il y avait une adresse de retour. Il ne restait plus qu'à y ajouter le nom de la victime et son adresse. Le colis fut radiographié. Il contenait une bombe tuyau prête à exploser. L'agent spécial Sachleben devait gérer cette situation de crise.
Grâce au rayon X, nous avons pu constater que la bombe était semblable à celle qui avait tué M. Murray à Sacramento. Nous avons sorti la boîte de la cabane et nous avons descendu la colline où nous avons établi un site temporaire pour la désamorcer.
On poursuivit les recherches les jours suivants. Les indices incriminants ne cessaient de s'accumuler. En plus des matériaux destinés à la confection de bombes, les experts trouvèrent des lettres, des mots, des diagrammes et le manifeste de Yuna Bomber. Il restait encore à trouver la preuve irréfutable de l'implication de Ted Kaczynski, la machine à écrire qu'il avait utilisée pour rédiger son manifeste.
La machine utilisée n'a été trouvée que le dernier des 4 ou 5 jours de fouille. Elle était au fond de la dernière boîte qui a été ouverte.
En tout, il avait fallu 11 jours de recherche pour examiner le contenu d'une cabane de 2,40 mètres carrés. Mais ce travail minutieux avait porté fruit. L'homme qui avait tué, mutilé et ruiné la vie de tant d'innocentes victimes avait enfin été arrêté. Le 14 avril, la cabane fut placée sur une remorque et transportée au laboratoire judiciaire pour que les recherches se poursuivent. On porta de nouvelles accusations contre Ted Kaczynski. Le 18 juin 1996, il y avait 10 chefs d'accusation contre Ted Kaczynski. L'un d'eux était la mort de Hugh Scruton. Il y avait 3 chefs d'accusation pour les blessures de Charles Epstein, 3 pour la mutilation de David Gelotter et 3 pour la mort de Gilbert Murray. Ce dernier aurait d'ailleurs célébré son 48e anniversaire à cette date. Les autorités du New Jersey avaient d'autres accusations à porter pour la mort de Thomas Moser. Le 12 novembre 1996, des visiteurs triés sur le volet entraient dans la salle d'audience de la cour de Sacramento pour assister au procès tant attendu de Ted Kaczynski. Dans la première rangée se trouvait David, le frère de Ted et sa mère, Wanda Kaczynski. Lorsque Ted entra dans la salle, il tourna le dos aux membres de sa famille et ne les salua pas. Les avocats allaient débuter quand Ted se leva et demanda un nouvel avocat. Quelques jours plus tard, le juge ordonna que Kaczynski subisse une évaluation psychologique. La psychiatre Sally Johnson passa plusieurs jours avec Ted Kaczynski. Elle en conclut que ce dernier était mentalement malade, mais qu'il était cependant apte à subir son procès. Les preuves contre Ted Kaczynski étaient imposantes. Le FBI se préparait depuis 17 ans. Les experts avaient reconstruit et conservé toutes les bombes reliées au crime de Yuna Bomber. Après l'arrestation de Ted Kaczynski, ils avaient pu établir un lien irréfutable entre lui et Yuna Bomber. La vie de réclusion qu'avait choisi ce dernier ne serait plus un choix qu'il pouvait faire. Sans autre option, il plaida coupable à tous les crimes reliés à Yuna Bomber. Il écopa de 4 peines d'emprisonnement à vie plus 30 ans. Il ne pourrait jamais être éligible à une libération conditionnelle. Pour l'agent Terry Turchi, l'enquête entourant Yuna Bomber montre à quel point le FBI est déterminé à ne jamais abandonner jusqu'à ce que justice soit rendue, peu importe le temps requis.
Les gens qui commettent ces crimes et qui s'en tirent pendant plusieurs années deviennent de plus en plus arrogants. Ils croient qu'on ne les arrêtera jamais. Mais ils doivent comprendre que nous n'abandonnons jamais la partie. Nous sommes déterminés à résoudre ces enquêtes. C'est notre mission et nous nous y conformons.
En juin 1998, Johanna Lee, l'assistante de l'éditeur Simon Schuster Publishing, reçut une lettre de Ted Kaczynski, dont l'adresse de retour était la prison. Elle savait qu'il s'agissait de Una Bomber, mais elle l'ouvrit tout de même. Kaczynski désirait qu'on publie un livre à propos de son combat. À ce jour, personne n'a encore accepté de le publier.